Onde Femmes, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, nous évoquons les femmes dans l'impressionnisme, l'art de la peinture. Les femmes, ces femmes qui ont très peu été reconnues de leur vivant, qui aujourd'hui peut-être le sont un peu plus, mais encore très très peu. Et puis, en musique et en son, une autre femme, Fanny Mendelssohn, que nous venons d'écouter, dont nous vous parlerons un petit peu tout à l'heure, et ceci en compagnie d'Annette, qui nous évoque ces femmes au travers de livres que vous pouvez trouver à la librairie L'Inédite, librairie des femmes à Genève. Alors Annette, après Marie Cassatt, nous allons découvrir une deuxième femme. Nous nous rapprochons toujours un petit peu plus de nos horizons géographiques, ou bien
voilà.
Où habite-t-elle celle-ci?
Voilà, tout à fait. Elle a un nom espagnol, elle s'appelle Eva González, mais en fait elle est née à Paris. Et elle était la fille de Emmanuel González, qui est un romancier plus très connu aujourd'hui, mais qui était à l'époque quelqu'un d'influent dans la société des gens de lettres de Paris. Et je pense que ça explique aussi que cette enfant et jeune fille, elle a été dans un milieu d'artistes et elle a pu réaliser probablement ses dons pour la peinture. Elle a pu donc travailler dans un atelier dont j'ai découvert le nom en lisant ce document d'un monsieur qui s'appelait Charles Chaplin. Mais de nouveau, ça devait être un atelier privé de dessin. Ce n'était pas une académie en tant que telle. Apparemment, j'ai lu ailleurs que Marie Cassatt, qui avait aussi travaillé dans cet atelier, on a noté quelque part qu'elle s'ennuyait rapidement. Donc ça devait être un cours de dessin pour une jeune fille de bonne famille et des filles vraiment douées, comme ces trois femmes, devaient très rapidement se sentir tout à fait étouffées dans ce genre de formation. Elle a l'occasion, bien sûr, de rencontrer donc beaucoup d'artistes dans le milieu parisien de l'époque. Et elle a la chance de rencontrer donc Édouard Manet. Eugène, c'est celui qui deviendra le mari de Berthe Morisot, mais c'est Édouard Manet, donc le grand peintre. Et elle devient l'élève de Manet. Et de nouveau, grâce à lui, elle peut apprendre vraiment tout ce dont elle a besoin pour réaliser une œuvre vraiment importante. Elle expose des œuvres et elle est donc reconnue comme une femme peintre vraiment à l'égal de ses contemporains. Tout ça, c'est donc dans les années 70, entre 1870 et 1878. En 79, elle expose un tableau qui est très connu, qui s'appelle Une loge aux Italiens. Alors, je vais essayer de vous le raconter tout à l'heure, ce qui, évidemment, est un exercice un petit peu périlleux à la radio.
Ça, c'est vrai.
Mais effectivement, c'est un tableau qui m'a rappelé un autre peintre, Homme, que j'ai vu à Lausanne il y a une année. Et l'ambiance aussi est très, très intéressante. En 1882, elle passe quelque temps à Dieppe. Attendez, je me trompe dans les dates, excusez-moi. En 1879, elle épouse un peintre et graveur qui se nomme Henri Guérard. Donc elle reste dans le milieu artistique, ce qui lui permet de continuer à peindre. Mais apparemment, elle a moins d'œuvres que ses contemporaines. Elle devait être extrêmement perfectionniste et chercher très attentivement comment elle allait peindre ses œuvres. Ou alors ses œuvres ont disparu, mais il n'y en a pas énormément. Et cette jeune femme meurt très jeune, en 1883, donc elle a 32 ans. Elle meurt en couche à l'époque.
Chose
fréquente à l'époque, même si on était dans un milieu assez favorisé, ce qui était le cas de cette femme, Eva González. Alors c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas eu l'occasion d'avoir une œuvre extrêmement importante, disons, dans la quantité. Mais les peintures que j'ai vues au musée Marmottan sont aussi, comme celles dont je parlais tout à l'heure, d'une recherche et d'une qualité absolument extraordinaire, notamment dans les expressions des visages qui sont d'une recherche approfondie, qui eux alors sont plus proches, j'ai envie de dire, de ce que la photographie peut faire aujourd'hui. La précision est telle que parfois c'est autre chose que les tableaux littéralement impressionnistes. Et ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans l'œuvre d'Eva González, c'est qu'il y a une très, très grande diversité. Et là, donc, ces portraits qui sont alors dans... Il y a à la fois ces portraits très précis où on voit des visages, notamment deux femmes qui se regardent dans un miroir. Et il y a une facture très, très précise des lèvres, du nez, des oreilles, comme si c'était vraiment presque une photographie. Et puis à côté de ça, elle fait des tableaux, alors beaucoup plus fous, si je puis dire, avec des fonds qui sont uniquement de la couleur, de la lumière et rien d'autre, sans qu'il y ait tout cet environnement
réaliste.
Oui, voilà, exactement. Alors la loge, et il y a deux tableaux qui m'ont à moi spécialement plu. C'est des peintures de bord de mer. C'est la plage de Dieppe et l'autre, c'est Grand Champ. Je pense que c'est aussi au bord de l'Atlantique, qui sont extrêmement poétiques. L'un est tout à fait dans les verts et la mer... est verte, mais beaucoup plus claire que la prairie qui est tout près. Il y a une petite bande de sable entre l'eau et les champs. Et on a vraiment envie de prendre une petite barque et de s'évader dans ce tableau. Il y a au fond une esquisse d'un village très simple à la Bretonne, des maisons grises, des toits d'ardoise. Tout est très fin et suggéré exactement comme on a envie de le rêver.
De nouveau avec une lumière, semble-t-il, très particulière.
Oui, le ciel est dans les blancs, gris, mais très très lumineux, justement. Ça, c'est très... On a l'impression que peut-être ça va se lever, peut-être ça va descendre vers l'orage, on ne sait pas très bien. On peut aussi tout imaginer. Et l'autre tableau, alors il y a... C'est presque la tempête qui arrive. On voit une esquisse, plusieurs bateaux, plusieurs voiles qui sont penchés. On voit deux personnages esquissés sur le bord du rivage qui vont vers les bateaux. Et le ciel, alors là aussi, est très lumineux, mais en même temps très chargé dans les bleu-violet, bleu-indigo. Et on a l'impression que le vent va se lever et... emmener les bateaux très très loin.
Le paysage était effectivement souvent des thèmes affectionnés des impressionnistes, où ils donnaient justement la force du détail, mais en même temps de l'impression des couleurs entremêlées. Tu retrouves cette force-là dans les tableaux d'Eva González, pardon.
Tout à fait, mais une fois de plus, tout à fait originale. Mais elles ont surtout peint des portraits. Mmh. Quand même, c'était ça. C'était ça l'essentiel.
Visiblement le choix particulier.
Elles étaient très attachées à ça. Alors, le fameux tableau dont on voulait dire un petit mot, qui s'appelle donc Une loge aux Italiens.
Qu'est-ce qui fait, pourquoi ce tableau-là a été repéré?
Oui, d'abord, il a été refusé au Salon des impressionnistes en 1874. Et quelques années plus tard, elle l'a reproposé pour l'exposition, ces fameuses expositions qui étaient donc une course à la gloire, hein, je crois, pour les peintres à l'époque.
Et qui n'existe plus tellement aujourd'hui.
Non, je crois que c'était vraiment à l'époque. Et je ne suis pas du tout spécialiste de l'art, moi. Mais je crois savoir qu'effectivement, certains grands peintres, enfin, qui sont aujourd'hui considérés comme de très grands peintres, ont été refusés et qu'il y avait par contre d'autres tableaux qui étaient exposés et dont aujourd'hui on ne parle plus du tout et qui nous intéressent pas du tout. Donc il n'y avait pas on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. Et il y avait même à ce moment-là le salon des refusés, un groupe de peintres.
C'est déjà les festivals off.
Voilà, c'était ça.
Et puis peut-être que le poids du commercial ou du politique.
Alors
avait
probablement
déjà,
ou le comme on dit aujourd'hui les pistons ou les tuyaux comptaient très très fort pour avoir son tableau exposé ou sa sculpture. Je crois que Rodin a beaucoup souffert de ce genre de problème. Voilà. Il n'a pas été accepté au départ et Camille Claudel non plus dans la sculpture. Alors une loge aux Italiens, ça m'a beaucoup rappelé certains tableaux de Vallotton dont on a vu l'exposition à Lausanne l'hiver dernier. Et il y a donc là aussi un homme et une femme dans la loge, donc qui sont à l'opéra. Et l'homme toise la jeune femme. Et on a l'impression qu'il y a énormément dans ce regard, dans l'attitude. Il n'y a plus auquel. Il tient la main à son gousset. Et il doit penser pas mal de choses. Alors on ne sait pas s'il va lui sortir tout ce qu'il pense plus tard, s'il va se retenir, s'il est complètement sous la coupe de cette femme pour je ne sais pas quelle raison. Et elle, en tout cas, est parfaitement indifférente à l'homme. Elle a le regard fixé sur la scène. Donc lui regarde la femme, il ne regarde pas du tout la scène. Elle est attentive à ce qui se passe dans le spectacle. Elle est très jolie. Elle est surtout habillée d'une manière extrêmement originale, peut-être. Mais en tout cas, elle est très déshabillée, si je puis dire. Donc, elle fait un petit peu femme objet. Mais on ne sait pas dans quelle mesure elle se comporte comme ça pour attirer l'homme, parce que c'était vraiment son genre. Je ne connais pas l'histoire du couple, mais une fois de plus, le tableau offre énormément d'idées. On a envie de savoir plus. Évidemment, comme c'est une loge, le fond est tout à fait noir. Et la carnation, de nouveau, de la femme ressort d'une manière assez extraordinaire.
Au son d'un concert d'une musique de chambre, quatuor de clavier de piano, Fanny Mendelssohn, nous abordons notre troisième femme impressionniste, Berthe Morisot, semble-t-il la plus connue des trois.
Oui, Annette. Berthe Morisot est vraiment beaucoup plus connue dans beaucoup d'expositions, beaucoup de musées. Il y a des tableaux de Berthe Morisot. Évidemment, elle a eu plus, entre guillemets, peut-être plus de chance que ses deux contemporaines, parce qu'elle a épousé donc Eugène Manet, le frère d'Édouard, qui lui, à la fin de sa vie, était très connu et en fait a pu donc aider sa belle-sœur sans aucun doute. À part ça, Berthe Morisot était évidemment une femme extrêmement douée qui très rapidement a présenté ses tableaux et a été reconnue comme aussi douée que ses contemporains, que ses hommes. Elle a eu une vie où elle a toujours peint, toujours exposé. Elle était déterminée à cela. Et je pense qu'elle devait effectivement avoir une personnalité très très forte. Mais elle aussi, elle a eu l'occasion de connaître des artistes célèbres et donc d'être aidée dans son activité de peintre.
Donc en quelque sorte, Annette, c'est la deuxième fois que tu nous dis que, tu as déjà dit cela pour Eva González, qu'elles finalement ont pu exposer, ont été reconnues de leur vivant. Est-ce que donc ces trois femmes sont des cas particuliers dans l'histoire des femmes peintres, en tout cas de cette époque-là? Ou bien est-ce qu'on les a reconnus à un moment donné, puis après on les a oubliés ou on n'a plus voulu les reconnaître?
Moi, je pense qu'on n'a pas oublié Berthe Morisot. Mmh.
Elle est restée
toujours quelqu'un de connu. Pourquoi est-ce que certains peintres, aussi bien hommes que femmes, sont plus connus que d'autres, plus facilement exposés? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de raisons différentes.
Et là, nos limites en histoire de l'art, voilà, dans le marché de l'art, sont évidentes.
Oui, voilà. ça tout à fait. Mais je pense que même aujourd'hui, il y a des courants d'idées ou des courants de différents styles. Et puis voilà, les gens sont plus ou moins connus. Je pense aussi que la quantité d'œuvres produites n'est pas indifférente. Mmh. Probablement que les gens qui produisent beaucoup sont plus facilement connus que d'autres.
Alors, est-ce qu'il y a quelques éléments intéressants à relever de la biographie, de la vie de Berthe Morisot que tu pourrais nous transmettre?
Pas tellement, dans le sens qu'elle a eu probablement une vie assez tranquille, mais où justement elle a eu le temps de peindre. Elle avait une vie confortable, dans le sens que son mari n'avait pas de problème financier, elle s'est mariée jeune, elle a eu un enfant, elle avait probablement une vie de bourgeoise qui lui permettait de consacrer du temps à sa peinture. C'est peut-être là une explication aussi du fait qu'elle a peint beaucoup de choses et qu'elle a eu l'occasion de progresser régulièrement. Mais sinon, il n'y a pas spécialement d'occasion de vie particulière. Alors j'aimerais juste, elle aussi, elle a peint énormément de choses différentes. Elle a peint beaucoup de paysages alors, elle, Berthe Morisot, et elle a peint des portraits. Beaucoup de femmes avec des enfants, mais des portraits moins précis que ceux de Marie Cassatt, si on veut, où tout l'environnement, le paysage, la situation est très, très importante. Il y a beaucoup d'arbres, il y a des paniers dans les champs, il y a des poules qui picorent, il y a des détails sur les balcons, sur les jardins. Et les personnages sont intégrés dans le paysage, mais le paysage est extrêmement important. Et là, je vais juste vous raconter en une minute un des tableaux que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est celui qui s'appelle La Fable. On voit une jeune femme assise sur un banc. Manifestement, elle a cueilli dans le jardin des pommes ou des prunes. En face d'elle, une petite fille est assise sur un pliant. Et si le tableau s'appelle La Fable, c'est sûrement avec une intention précise. Et manifestement, la petite fille écoute la jeune femme. Soit sa nourrice, sa bonne ou sa mère, hein, c'est difficile de dire. Elle porte un tablier, c'est peut-être bien une servante dans une bonne famille, qui raconte une fable, une histoire à la petite fille qui est extrêmement attentive. Et on sent qu'entre les deux, de nouveau, le courant passe et qu'elles sont dans un monde à elles tout à fait particulier. Et de nouveau, le paysage est très, très important. Il y a énormément de détails esquissés, comme toujours dans les peintures impressionnistes, mais qui suggèrent une atmosphère très douce et très charmante.
Alors voilà, je crois qu'on peut rappeler peut-être le titre de ce magnifique livre, qui est, on vous le répète, un livre d'images. Parfois, mm-hmm. ça vaut la peine de se consacrer au livre d'images, qui a pour titre « Hommage aux femmes impressionnistes », réalisé par le musée
Marmottan à Paris. Et donc le sous-titre, c'est ces trois femmes dont je rappelle les noms, Marie Cassatt, Eva Gonzalez et Berthe Morisot.
Et nous vous disions tout à l'heure que nous vous proposions par exemple le nom de quelques livres qui sont sortis sur d'autres femmes. Une femme qui a vécu à peu près à la même époque, c'est Suzanne Valadon, dont une biographie a été écrite par Jeanne Champion, que vous trouvez aujourd'hui en livre de poche.
Tout à fait.
Et qui raconte aussi l'histoire de cette femme qui voulait absolument pouvoir peindre et être libre d'aimer et de peindre en un temps où, comme on disait tout à l'heure, seuls les hommes pouvaient prétendre à mener cette vie de bohème. Elle habitait Paris. Elle a été connue surtout parce qu'on a parlé d'elle qu'à travers des hommes de sa vie, par exemple Toulouse-Lautrec dont elle était l'amante ou Éric Satie. Et on a surtout parlé d'elle comme la mère indigne d'Utrillo, ce pauvre jeune homme dont on a dit qu'il était Utrillo le maudit. Donc voilà comment vous pouvez retrouver peut-être une autre vision de la vie de Suzanne Valadon en lisant ce livre écrit, ce portrait réalisé par Jeanne Champion. Tu voulais nous rappeler peut-être, on pouvait rappeler une femme...
Peintre aussi.
Peintre,
oui. Mais alors qui vient d'un autre...
Il y a beaucoup plus tard et qui vient d'ailleurs, c'est Frida Kahlo. Frida Kahlo, beaucoup de livres ont été écrits sur elle, dans la même collection que beaucoup de portraits de femmes, comme Camille Claudel avant elle, aux presses de la Renaissance. Il y a le portrait de Frida Kahlo écrit par Rauda Jamis. Jamis ou Jamis, je ne sais pas comment on prononce.
Oui, Jamis, je pense. Mm-hmm. Oui.
Mais Frida Kahlo a donc vécu plus tard, c'est au début du XXe siècle. Elle est née en 1907 et mourra en 1954. Une vie terrible de douleurs physiques qu'elle essaye de traduire dans une peinture incroyable.
On peut rappeler d'ailleurs qu'un autre livre vient de sortir, qui s'appelle donc Diego et Frida, qui est écrit par Jean-Marie Le Clézio et qui retrace la vie donc, de Frida Kahlo et de celui qui a été son mari, Diego de Rivera, qui est donc un très, très grand peintre mexicain, qui est l'initiateur des fresques de certains grands bâtiments publics et qui lui aussi était un personnage extrêmement particulier et extraordinaire.
Et qui interférera à sa façon dans la vie de Frida Kahlo,
bien sûr.
De multiples façons. Et puis, bon, Camille Claudel, bien sûr.
On a beaucoup parlé de Camille Claudel il y a quelques années. Beaucoup de gens connaissent le film qui a évidemment contribué à sa gloire. Et je pense que si on a l'occasion
de relire le livre d'Anne Delbé,
oui, d'une part, et si surtout d'aller voir dans certaines expositions les peintures, les sculptures de Camille Claudel, c'est toujours un véritable régal.
Voilà. Alors c'est tout ce qu'on a à vous proposer pour aujourd'hui en matière de femmes artistes, mais la liste serait sûrement encore longue. On n'a pas vraiment cherché dans tous les recoins, mais on aurait peut-être encore d'autres livres à vous proposer. Ou si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à nous appeler maintenant. Nous sommes là pour répondre au téléphone 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 depuis le canton de vos voisins. Et puis nous aimerions finir, nous allons commencer par le faire d'abord par quelques notes de musique avec quelques informations sur Fanny Mendelssohn.
Alors Fanny Mendelssohn est née avant les trois femmes impressionnistes dont j'ai parlé. Elle est née au début du 19e siècle. Et c'est vrai que je l'ai découverte très très récemment. On connaît bien son frère Félix Mendelssohn, mais moi je ne savais pas du tout que Fanny avait été une très très grande compositrice, une très grande pianiste aussi. Et une biographie est sortie il y a à peu près une année sur Fanny Mendelssohn. Plusieurs de ses disques sont maintenant gravés, ceux que vous écoutez donc maintenant bien sûr, et encore des lieder notamment qu'elle a composés. Il faut dire qu'elle, alors, n'a pas du tout eu la chance, comme les trois femmes artistes dont je viens de parler, de pouvoir exposer, publier, entre guillemets, son œuvre de son vivant. Elle est morte à 43 ans, Fanny Mendelssohn, de maladie subite. Et elle avait 40 ans quand, pour la première fois, elle a osé sortir de ses cartons une œuvre qu'elle avait composée elle-même, le fameux trio dont vous avez entendu un petit exemple tout à l'heure. Et il faut dire que son frère, Félix, n'était pas du tout positif à l'égard de l'œuvre de sa sœur. Enfin, la trouvait très belle, mais considérait que ça faisait partie de la famille et non pas du monde.
Alors, on peut découvrir bien d'autres éléments sur la vie de Fanny Mendelssohn en achetant ou en consultant le livre que tu as entre les mains en ce moment,
Annette. Oui, donc qui s'appelle Fanny Mendelssohn, qui est publié aux éditions Bellefond et qui a été rédigé par Françoise Tillard.
Et bien voilà, notre rencontre avec Annette aujourd'hui est terminée. Merci Annette d'être venue. Je crois que notre prochaine émission de l'Inédite, ce sera avec Evelyne et elle a l'intention de nous parler de Toni Morrison.
Alors une autre femme bien connue aujourd'hui, heureusement. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, les femmes ont plus de chance que celles dont je viens de parler devenir des personnages connus.
Rappelons-le, Toni Morrison vient de recevoir le prix Nobel de littérature.
De littérature.
Voilà. Alors, à dans un mois environ.
Au revoir Catherine.
Au revoir Annette.